France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Moins de gaspillage en grande surface, les invendus alimentaires vont pouvoir bénéficier aux salariés de ces commerces. Jusqu'ici, ils étaient considérés comme des avantages en nature. Explication et réaction dans un instant. À suivre encore, le nombre de morts sur les routes qui repart à la hausse. Plus 2% l'an dernier en métropole. L'alcool, les stupéfiants, la vitesse sont en cause. Mais le gouvernement s'inquiète aussi de la montée de la consommation du protoxyde d'azote. Nous verrons cela. Dans l'actualité également, le Venezuela. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour. Bonjour.
Avec ce changement majeur dans le pays.
Oui, une petite révolution, mais libérale cette fois, qui répond aux attentes de Donald Trump. Quelques semaines après son coup de force, on parle de pétrole.
A tout de suite pour vos précisions. Un dignitaire chinois victime d'un homejacking dans les beaux quartiers de Paris. Plusieurs millions d'euros dérobés. Une affiche Paris Saint-Germain-Monaco en barrage de la Ligue des champions de football. Le tirage a eu lieu il y a quelques minutes. La nouvelle vie du champion des jeux télé, Emilien, qui lance sa chaîne de jeux sur Internet consacrée à la culture générale. Et puis les archives de Barbara présentées à la Bibliothèque nationale de France. Nous visitons. À partir de 13h30, nous serons avec Dorine Bourneton pour son seul en scène intitulé Voltige. Elle y raconte comment elle est devenue la première handicapée au monde pilote de Voltige. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France, la montagne, avec Virginie Troussier qui nous présente le freeride, la discipline qui monte. Les premiers championnats du monde de l'histoire ont lieu ce week-end. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Anouk Grimbert, Je veux du soleil.
Je rêve que cette musique soit balancée dans toutes les rues du monde, très fort, très fort. Et que cette musique éclate dans les parlements, dans les ministères, dans les chambres à coucher, partout.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ce sont des produits qui n'ont pas été vendus en commerce alimentaire, mais que l'on peut toujours consommer. Ces invendus, 303 000 tonnes par an tout de même, peuvent être donnés aux salariés de la grande distribution par exemple. C'est autorisé, mais jusqu'ici considéré par l'administration comme un avantage en nature, ce qui dissuade les salariés d'en profiter. Alors c'est bientôt fini. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Le gouvernement va changer les règles pour lutter contre le gaspillage.
Oui, c'est un pas supplémentaire de la loi Garot de 2016 qui oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner les invendus à des associations. C'est un pas supplémentaire et en aucun cas une substitution. Car ces produits que les salariés de la grande distribution, mais aussi des petits commerces de bouche vont pouvoir récupérer, partent aujourd'hui à la poubelle. Ce sont ces quelques croissants qui restent dans une boulangerie à la fin de la journée ou quelques packs de lait dans un hypermarché. Trop petits, avec une date de péremption trop proche, ils ne peuvent pas être récupérés par les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire. Cela représente tout de même, vous l'avez dit Jérôme, 300 000 tonnes par an. Alors, c'était jusqu'ici considéré effectivement comme des avantages en nature, avec des cotisations sociales à payer. Le don sera tout de même plafonné. Le montant est en discussion entre 100 et 500 euros par an et par personne. Le patron devra d'ailleurs veiller à une certaine équité au sein de l'entreprise. Rappelons que cela restera une possibilité pour les enseignes, pas une obligation. Le ministre Serge Papin, lui-même ancien de la grande distribution, espère la publication d'un arrêté au printemps.
Agnès Soubiran, la mesure concerne donc 106 000 commerces, 1 million de salariés. Qu'en disent-ils ? Faouzi Trita, notre reporter, s'est rendu ce matin à l'hypermarché Auchan de Vélizy, dans les Yvelines, à la rencontre des salariés.
Aminata jette un dernier sac de poubelle dans la benne à ordures avant de terminer sa matinée. Mère de trois enfants, elle est femme de ménage pour cet hypermarché. Elle aimerait beaucoup repartir avec quelques produits invendus.
Moi, j'ai fait les courses 300 euros par mois. Ouais, parce que les bouteilles, les petits déj, préparer les enfants et tout, tout est cher. Ouais, tout est cher. Même si c'est un seul paquet de pâtes, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup.
Casque sur les oreilles, piercing dans le nez, Axel, 22 ans, vient d'arriver. Elle est employée multiservice en contrat étudiant. La jeune femme accepterait volontiers de recevoir quelques produits invendus.
Il faut payer l'appartement, le prix étudiant, il faut ensuite réussir à manger. Donc oui, non, ça peut que j'en profiterai. Au moins, ça finit pas à la poubelle. Il y a des gens qui en profitent, qui peuvent manger aussi, manger peut-être mieux aussi, donc... Je me voyais il y a 2-3 ans où c'était, je faisais le maximum d'heures sup pour pouvoir manger, me faire plaisir à la fin du mois ou aller au sport. Ou 5 ans d'études supérieures, j'ai aussi perdu 20 kilos. on mange moins de viande, on mange moins de protéines, on mange moins de bonnes choses. On va plus se restreindre, on va manger des choses pas très chères, donc des pâtes, des œufs. Mais la viande et le poisson, moi, je l'ai presque complètement arrêté ces deux dernières années. Moi, je pense que c'est vraiment une super idée.
Beaucoup de clients rencontrés, conscients des difficultés des salariés de la grande distribution, se sont dit également favorables à cette mesure.
Reportage Faouzi Trita. Le nombre de permis de construire accordés l'an dernier dans notre pays en hausse par rapport à 2024, plus 15%, mais la moyenne reste inférieure à celle des cinq dernières années. Ce sont les mises en chantier de logements collectifs qui ont retrouvé leur niveau, mais c'est toujours très bas pour les maisons individuelles, en moyenne 30% en dessous des chiffres de ces dernières années. Là, les chiffres sont mauvais, ceux de la sécurité routière. Le bilan 2025 a donc été présenté ce matin. Bonjour Timur Özturk.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi cette présentation au ministère de l'Intérieur à Paris. Le nombre de morts et le nombre de blessés graves est reparti à la hausse l'an dernier.
Oui, 67 morts de plus en 2025 qu'en 2024 sur les routes de métropole. C'est une hausse de 2% sur un an. Dans les Outre-mer, l'augmentation est même encore plus forte, plus 6% de tués sur la même période. Et quand on regarde les blessés graves, là aussi, les chiffres sont mauvais. 16 600 en 2025, augmentation de 4% sur un an. Ces drames étaient évitables, déplore la ministre déléguée Marie-Pierre Védrenne, à chaque fois que l'alcool, les stupéfiants et la vitesse sont à l'origine des accidents. Alors qui sont ces victimes ? Plus d'automobilistes, ils représentent encore la moitié des morts, plus de piétons, environ 500 morts, plus de cyclistes, plus de conducteurs de trottinettes électriques et un peu moins de motards, seule catégorie en baisse. On note que les accidents mortels sont en hausse sur les routes hors agglomération, sur les autoroutes aussi, mais sont en baisse en ville. Enfin, un chiffre très stable, Jérôme, d'une année sur l'autre, les trois quarts des tués et des blessés graves sont des hommes et dans 84% des accidents mortels, c'est un homme qui en est responsable.
J'ajoute le chiffre de la mortalité, hein, plus 6%. Outre-mer aussi, la mortalité routière est repartie à la hausse. Vous avez commencé, Timur Özturk, à parler des causes. Est-ce qu'on connaît le nombre de morts liés au protoxyde d'azote ou pas ? Et est-ce que ce matin, il y a une communication autour de l'usage de ce produit ?
Alors, on n'a pas de statistiques précises sur les accidents causés par la consommation au volant de protoxyde d'azote. Pourtant, on sait qu'il est impliqué dans plusieurs morts sur la route ces derniers mois. C'est un fléau, insiste même la ministre déléguée Marie-Pierre Védrenne. Conduire en consommant du protoxyde, met en garde Estelle Bally, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. C'est comme conduire les yeux fermés.
Merci Timur Özturk, en direct du ministère de l'Intérieur avec les moyens techniques de Selim Guéribi. En Suisse, l'enquête sur l'incendie du bar Le Constellation la nuit du Nouvel An met en cause une quatrième personne. L'actuel chargé de la sécurité incendie de la ville, en poste depuis mai 2024, sera entendu vendredi prochain en tant que prévenu. Son prédécesseur à ce poste le sera aussi. Je rappelle que la commune de Crans-Montana n'a procédé à aucun contrôle incendie dans cet établissement entre 2020 et 2025. Parmi les victimes de ce drame figurent 9 Français qui sont morts et 20 autres qui ont été blessés. 9 d'entre eux se trouvent toujours en réanimation. Leurs familles sont à leur chevet et depuis l'incendie il y a un mois, elles se sentent très seules. Julie-Marie Lecomte a rencontré l'une d'entre elles à Metz.
Les grandes promesses de soutien des autorités françaises juste après le drame, Thomas attend toujours de voir.
Tout ça, c'est un peu du flan pour nous. On ne voit rien au quotidien. J'en ai reçu aucune aide.
Son frère est hospitalisé au centre des Grands Brûlés de Metz. Il s'est débrouillé tout seul pour monter un réseau d'entraide qui communique via les réseaux sociaux.
Pour pouvoir se passer les informations, donc s'aider les uns les autres de manière logistique pour pouvoir trouver des hôtels, de manière psychologique aussi, échanger entre nous pour faire humanité commune face à tout ce qui nous arrive.
Dans ce groupe, il y a 7 familles avec un pilier, Alexia de Skovronski, une Française qui vit à Zurich depuis 25 ans, rencontrée presque par hasard. Elle a ouvert son carnet d'adresses.
Il n'y a pas un pool en France qui s'est créé rien que pour ça, en disant maintenant, on appelle toutes les familles françaises et on regarde de quoi elles ont besoin.
Les principaux contacts qu'on ait pu avoir, on les a eus grâce à Alexia.
Toute la semaine du 5 janvier, j'ai fait ça 14 heures par jour.
Ce dont les familles françaises auraient besoin aujourd'hui, c'est de se retrouver toutes ensemble, dit Thomas, et il aimerait que l'État organise cette rencontre.
Reportage Julie-Marie Lecomte. Plus que quelques jours avant l'adoption définitive du budget de l'État pour cette année 2026, ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé l'article 49.3 pour la troisième fois, c'est-à-dire qu'il engage la responsabilité du gouvernement. Deux motions de censure devraient être déposées, l'une par les Insoumis, l'autre par le Rassemblement National. Et elle devrait être rejetée. Lundi, le budget sera alors adopté. 3 janvier dernier, un commando américain capture le président vénézuélien Nicolas Maduro. Le monde entier est stupéfait. Donald Trump jubile et annonce qu'il a pris le contrôle du pays. Mais depuis, plus rien ou pas grand-chose, à tel point qu'on se demandait si le régime autoritaire de Caracas n'avait pas repris la main avec la présidente par intérim, Delcy Rodriguez. Eh bien, il n'en est rien. Les députés vénézuéliens ont voté la nuit dernière une loi qui ouvre le secteur pétrolier du pays au privé. Étienne Monin, il faut que vous nous expliquiez, c'est un tournant dans l'histoire du pays.
Oui, parce que jusqu'à présent, le pétrole était une chasse gardée. L'État avait la main sur l'exploitation. C'était un modèle imposé par Hugo Chavez il y a presque une vingtaine d'années et c'est cela qui a volé en éclats. La réforme fait entrer le secteur privé. Il peut à la fois exploiter, distribuer, commercialiser la production de pétrole avec un taux d'imposition qui a été sensiblement réduit. C'est donc un feu vert donné aux compagnies américaines. Seul Chevron avait gardé un pied au Venezuela après la révolution. Exxon et ConocoPhillips vont pouvoir y retourner si elles le souhaitent, parce qu'en parallèle, quasiment au même moment, le département du Trésor américain a assoupli les sanctions imposées par les États-Unis depuis 7 ans. Le Venezuela possède la plus grosse réserve de pétrole au monde. Les installations sont en très mauvais état. La production actuelle est en dessous de ses capacités et les investissements nécessaires se compte en dizaines de milliards de dollars.
Ça illustre, Étienne, le fait que le Venezuela est en fait maintenant sous tutelle américaine, on peut dire ça ?
En tout cas, c'est ce que dit Marco Rubio devant une des commissions du Sénat. Le secrétaire d'État a dit très récemment que les recettes pétrolières du pays seront contrôlées par les États-Unis. La présidente vénézuélienne a aussi très vite avancé sur le dossier prioritaire de Donald Trump, celui du pétrole. Donc oui, les États-Unis ont obtenu par la force ce qu'ils désiré. Le gouvernement vénézuélien assure sa survie en tournant le dos à une partie de l'héritage chaviste. Chacun semble s'y retrouver, sur le terrain économique en tout cas, parce que les signes d'ouverture du régime sur place sont encore limités.
Explication signée Étienne Monin. Vous nous parlez du président américain Donald Trump. Il propose à l'instant la nomination comme président de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire l'organisme qui fixe le niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. Entre autres, nomination de Kevin Warsh, qui succédera à Jérôme Powell, l'ancien président de la Fed que Donald Trump qualifiait encore récemment d'imbécile. L'entrée en jeu de la Turquie dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis, le chef de la diplomatie iranienne rencontre contre son homologue turc aujourd'hui à Istanbul, quand le président turc lui dit vouloir jouer les facilitateurs. Les Américains menacent toujours les Iraniens de frappe s'ils ne font pas de concessions sur leur programme nucléaire. L'Iran, qui a perdu il y a un an son principal allié dans la région, la Syrie, avec la chute du dictateur Bachar el-Assad. Depuis, l'ex-djihadiste Ahmed al-Sharr, devenu président, tente de conserver l'unité de son pays par le dialogue ou par la force. Son armée a ainsi mis en déroute il y a quelques jours les forces kurdes. Et ce matin, les deux parties sont parvenues à un accord. Les Kurdes représentent 12% de la population syrienne. Bonjour Manon Chaplin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Damas. Les forces kurdes vont intégrer l'État syrien, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En tout cas, cet accord fait suite à 3 semaines d'offensive des autorités gouvernementales, vous l'avez dit, vers les territoires administrés par les forces démocratiques syriennes à dominante kurde. Ces dernières contrôlaient depuis 2017 près d'un tiers du territoire dans le nord-est du pays, obtenu à la faveur de la lutte contre l'organisation État islamique dans la région. Les autorités de Damas avaient fait de la récupération du nord-est syrien une priorité depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Le territoire riche en gaz, en pétrole, est stratégique pour Ahmed Achara. Il souhaite à tout prix centraliser le pays, morcelé par 14 années de guerre. Ces derniers jours, les FDS étaient retranchés dans trois localités kurdes. Au nord, l'accord conclu ce matin prévoit le retrait des forces militaires des points de contrôle établis à proximité, la création de quatre brigades constituées de forces kurdes, la reconnaissance aussi des droits culturels éducatifs kurdes, ainsi que le retour de l'ensemble des déplacés dans leur région d'origine. Reste à savoir comment cet accord sera appliqué sur le terrain. Une division s'était créée ces derniers jours au sein des forces kurdes, entre ceux qui acceptent d'abdiquer et ceux qui souhaitent continuer à se battre.
Correspondance en direct de Damas en Syrie de notre journaliste Manon Chaplin. La mort en France du général Philippe Morillon, 90 ans, il fut le commandant des forces de l'ONU en Bosnie en 1992 et 1993 pendant la guerre. En mars 93, il avait lancé aux habitants de l'enclave de Srebrenica, assiégée par les forces serbes de Bosnie, « Vous êtes à présent sous la protection des Nations Unies. Je ne vous abandonnerai jamais. » Mais deux ans plus tard, les forces serbes pénétraient dans l'enclave, tuant 8000 hommes et adolescents. Philippe Morillon fut ensuite député européen. Ségolène Royal, elle est en Algérie. Aujourd'hui, l'ex-candidate à l'élection présidentielle a rencontré ce matin le journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison et incarcéré depuis juin dernier. Elle s'est aussi entretenue avec le président algérien Abdelmajid Tebboune. Ce matin, sur France Inter, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a dit attendre deux grands changements d'Alger sur deux sujets. D'abord, la reprise des reconduites des Algériens en situation irrégulière, mais aussi, a ajouté le ministre, la situation de Christophe Glaise. Plusieurs millions d'euros dérobés à Paris la nuit dernière. Il s'agit du cambriolage d'un domicile, ce qu'on appelle un homejacking. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Particularité, c'est un dignitaire du régime chinois qui en a été victime dans le 16e arrondissement.
Ah oui, un cambriolage avec violence qui rappelle ceux des footballeurs très connus à Marseille ou Paris ces dernières années, mais avec cette fois une dimension surprenante et diplomatique, car la victime n'est autre effectivement qu'un député chinois. En tout cas, il s'est présenté aux policiers comme député au ministère de l'économie du Parti communiste chinois. Un cambriolage bizarre à tous les niveaux, soufflait ce matin une source policière. L'homme politique chinois est donc installé dans un appartement, pas très loin d'ailleurs de la maison de la radio, dans le 16e arrondissement de la capitale. Les malfaiteurs étaient visiblement très bien renseignés. Ils sont passés par la fenêtre d'un balcon côté rue, sans effraction, avec peut-être une clé passe-partout. Deux hommes cagoulés, la trentaine, selon la victime, qui l'ont d'abord frappé et blessé au front, une plaie sur 5 cm, avant de s'emparer, selon la déposition, pour plus de 6 à 7 millions d'euros en montres de luxe, en broches et bijoux et diamants. Des objets qui n'étaient pas dans un coffre-fort. Il n'y en a pas dans cet appartement, selon nos informations. Le parquet de Paris a saisi la police judiciaire parisienne pour vérifier le scénario et tenter de retrouver des malfaiteurs repartis par la porte et la cour intérieure de l'immeuble.
Merci Emmanuel Leclerc pour ces informations. Le procès en appel des assistants d'eurodéputés du Front National se poursuit. 11 cadres du parti jugés, plus le Rassemblement National, pour détournement de fonds publics. Un procès avec de lourds enjeux, notamment politiques. Voilà pourquoi chaque fin de semaine, nous prenons le temps dans ce 13-14 de vous expliquer ce qui a marqué la semaine. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
C'est vous qui avez suivi les audiences cette semaine. La cour d'appel a entendu d'anciens assistants parlementaires, comme l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen.
Oui, Guillaume L'Huillier travaillait au domicile de Jean-Marie Le Pen à Montretout pendant qu'il était assistant parlementaire successivement de Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, puis à nouveau Bruno Gollnisch. Selon l'accusation, les assistants changeaient de contrat selon qu'il restait de l'argent disponible sur l'enveloppe des frais du député pour les utiliser jusqu'au dernier centime. Guillaume L'Huillier ne voit pas le problème. Selon lui, directeur de cabinet, c'était un titre honorifique qu'il pouvait exercer sur son temps libre, tout en travaillant pour plusieurs députés européens. Un travail dont il n'a gardé aucune trace et très peu de souvenirs.
Hier, l'ancien avocat et trésorier du parti a aussi passé un mauvais moment à la barre.
Oui, à entendre Valerand de Saint-Just, son seul rôle était de freiner le dérapage des dépenses. Mais la présidente connaît chaque pièce du dossier et ne lui en épargne aucune. Elle retrace le sort de ce graphiste qui a toujours travaillé pour le parti et qui bascule à un moment comme assistant parlementaire. Enfin, il y a cet échange avec un nouveau député en 2014. Jean-Luc Schaffhauser ne veut pas recruter des salariés du parti. Il a bien vu le risque, ce serait des emplois fictifs. Je crois que Marine sait tout cela, lui écrit Valerand de Saint-Just, qui tente d'expliquer aujourd'hui qu'il voulait juste clore la discussion et l'envoyer sur les roses.
Si on résume, Sarah, quelle impression ressort de cette troisième semaine de procès? C'est toujours aussi difficile pour la défense?
Oui, comme en première instance, les prévenus ont du mal à se justifier face aux preuves. Dans l'entourage de Marine Le Pen, présente quasiment tous les jours, on dénonce à nouveau un dossier à charge. La présidente de la cour d'appel laisse transparaître ses doutes. Bon, fait-elle sobrement ou bien c'est curieux, c'est surprenant. On a peu entendu en revanche les avocats généraux qui prendront leur réquisition mardi prochain.
Merci Sarah Guibaudon. On va donc vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau résumé de ces audiences au Palais de Justice de Paris. Une histoire très étonnante maintenant qui nous vient d'Outre-Manche. Elle a été révélée ces derniers jours par la presse anglaise dans un hospice de Norwich à l'est du pays. Des soignants de l'hôpital public anglais ont demandé l'intervention de l'Église car ils ont constaté des phénomènes qu'ils n'arrivent pas à expliquer, notamment la présence d'un fantôme. Le fantôme d'une fillette qui se promène dans l'hôpital à tel point que les services ont demandé l'intervention d'un exorciste. Cette affaire remonte à 2023. Explication de notre correspondante à Londres, Gaëlle Joly.
Dans les couloirs de l'ancien hôpital pour enfants de Norwich, transformé aujourd'hui en hospice, plusieurs soignants affirment avoir aperçu le spectre d'une petite fille vêtue d'une robe rouge. Ces incidents paranormaux perturbent tellement le personnel qu'en 2023, l'aumônier de l'hospice réclame de l'aide à son diocèse. Selon les mails publiés par le journal de Télégraphe, il demande qu'un pasteur de la délivrance, genre d'exorciste de l'église anglicane, vienne sur les lieux avec de l'huile sainte de la cathédrale de la ville. Un porte-parole du diocèse a bien confirmé au journal qu'une bénédiction du bâtiment avait eu lieu, mais sans en dire davantage. Selon De Télégraphe, ces prêtres de la délivrance seraient plus de 40 à travers le pays. Ils entretiennent des liens méconnus avec l'hôpital public. Ils ne peuvent agir sans consultation du personnel médical. En échange, ils leur viennent en aide quand un lieu ou quelqu'un se sent possédé.
Gaëlle Joly à Londres pour Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Quelle sera l'affiche de la finale de l'Open de tennis d'Australie dimanche? L'Espagnol Carlos Alcaraz, d'accord, mais face à qui? L'Italien Jannik Sinner ou le Serbe Novak Djokovic sont en ce moment opposés en demi-finale. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
C'est vous qui suivez ce tournoi du Grand Chelem pour Inter. Les deux hommes sont à égalité?
Oui, 1-7 partout en effet, après 1h58, le premier set pour Jannik Sinner, le numéro 2 mondial, double tenant du titre. Le premier set, 6 jeux à 3, et le deuxième set pour Novak Djokovic, le numéro 4 mondial, ex-numéro 1, décuple vainqueur de l'Open d'Australie. Un Novak Djokovic bluffant, il faut bien le reconnaître. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse jeu égal véritablement avec Jannik Sinner. Hein, Jannik Sinner qui perd un petit peu patience, hein, confondant souvent vitesse et précipitation, et puis en face, bien Novak Djokovic, il est là, il fait son match et pour l'instant il est extrêmement solide et très agressif. Attention, peut-être une surprise.
Avant ce match, il y a donc eu l'autre demi-finale. Diriez-vous, Fabrice, qu'on a assisté ce matin dans le match entre Alcaraz et l'Allemand Zverev à un chef-d'œuvre du tennis?
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un match épique en tout cas. Et à l'arrivée, c'est Carlos Alcaraz qui s'est qualifié en battant en 5-7 Alexander Zverev, le numéro 3 mondial, au terme d'un match de 5h27. Un match à rebondissement, à suspense, aux multiples retournements de situation. Alcaraz a été victime de crampes au milieu du troisième set alors qu'il menait 2-7-0 et qu'il maîtrisait plutôt bien la situation. Ce qui a permis en partie à Zverev de revenir dans le match et d'égaliser à deux manches partout. Mais Alcaraz, même diminué physiquement, s'est accroché. Il n'a rien lâché. Dans le cinquième set, l'Allemand menait même 5 jeux à 3, mais Carlos Alcaraz, dans un ultime effort, a réussi à aligner 4 jeux d'affilée donc pour remporter ce match, pour se qualifier pour sa première finale à l'Open d'Australie, le seul grand chelem manquant à son palmarès.
Merci Fabrice Abgral, on va continuer donc à suivre cette demi-finale entre Sinner et Djokovic avec vous aujourd'hui. Un air de déjà-vu dans quelques jours en barrage de la Ligue des Champions. L'an passé, le Paris Saint-Germain avait affronté le Stade Brestois pour parvenir en 8e de finale. Et bien cette année, le Paris Saint-Germain retrouvera un autre pensionnaire de Ligue 1, c'est Monaco. Le Paris Saint-Germain qui aura l'avantage de recevoir au retour, puisque le match aller aura lieu en principauté les 17 et 18 février prochains. Autre affiche de ces barrages, le Real Madrid opposé au Benfica Lisbonne. De très nombreuses chutes ce matin dans la descente de Crans-Montana à une semaine des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, à tel point que la descente de cette épreuve de Coupe du Monde a dû être annulé et que la star américaine du ski Lindsey Vonn en a été victime, blessée au genou gauche. Sa participation au jeu est désormais incertaine. Elle rêve d'y briller dans quelques jours à l'âge de 41 ans. Lui aussi est un champion. Émilien, vous ne l'avez pas oublié, les 12 coups de midi sur TF1, il a enchaîné 647 participations il y a quelques mois et amassé 2,5 millions d'euros. Il a ensuite été éliminé, ça arrive, mais il rebondit. Bonjour Marek Keta.
Bonjour.
Émilien vient d'ouvrir son propre site de quiz culture générale. Ça s'appelle la Table des Savoirs et ça fonctionne extrêmement bien.
10 000 connexions dimanche dernier au moment du lancement de son site latabledessavoirs.fr. Le champion ne s'attendait pas à autant de participants.
Ça a été un cap franchi en quelques heures seulement. Là, on est depuis dimanche à plus de 45 000 joueurs qui ont testé et participé au moins une fois à la Table des Savoirs.
Deux quiz de 10 questions tous les jours à midi. L'un est abordable, l'autre pour les experts. Et c'est préparé par Émilien en personne.
J'aime énormément jouer moi-même et j'aime énormément faire jouer aussi. Sur mon temps libre déjà, je rédigeais énormément de questions. Donc là, c'est l'occasion d'apprendre en rédigeant. Et c'est également l'occasion de faire jouer tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a tous les niveaux qui sont présents sur le site.
Pour l'instant, le site est encore en phase de test, mais des évolutions sont prévues, notamment sur la plateforme vidéo Twitch. Mais pas question de concurrencer Jean-Luc Reichmann et les 12 coups de midi.
Plus on a de jeux, plus on a de culture générale et plus on s'amuse. Donc, c'est des publics différents très souvent. Donc, c'est vraiment juste deux choses qui peuvent coexister, cohabiter, sans qu'on voit forcément la concurrence.
Sur Twitch, Émilien est suivi par 170 000 personnes. Il était étudiant en histoire. Pas de reprise d'études envisagée pour l'instant, non.
Il se consacre au jeu ?
À 100%. Uh-huh. À 100% au jeu et à ses activités en ligne.
Merci Marek Keta. On était heureux d'avoir des nouvelles d'Émilien qu'on avait reçues ici même dans ce 13-14. Une plongée maintenant dans les archives de l'une de nos plus grandes chanteuses, Barbara, à l'honneur dans une exposition à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Des partitions, des lettres, des photos d'archives sont réunis dans cette exposition qui révèle des documents pour certains inédits. Ils ont été collectés par des admirateurs de l'artiste et donnés à la BNF. Julien Baldacchino a visité pour nous.
L'histoire commence à la mort de Barbara quand, faute d'héritier, ses biens sont mis aux enchères. Avec l'aide d'autres admirateurs et de proches, Ariane Ruet et Martin Worms fondent une association pour acheter une partie de ce fonds.
C'était ça l'idée, c'était de réunir, non pas pour garder pour nous, pour mettre dans le placard, mais pour rendre public. Quand elle a appris que les choses, il y allait y avoir des ventes aux enchères, elle s'est dit, mais c'est pas possible de laisser disperser un patrimoine comme ça, d'une artiste comme elle. Elle s'est dit, il faut faire quelque chose, on peut pas laisser disperser. Il y avait des gens qui étaient moins recommandables quand même, qui cherchaient surtout à acquérir pour eux-mêmes.
25 ans plus tard, l'association a tout donné à des institutions publiques. Dans l'expo à la BNF, on découvre ainsi des documents de travail sur les spectacles de Barbara, mais aussi des lettres qui lui étaient adressées et qui témoignent de l'attachement qu'elle avait à son public. Émilie Caftan est chargée des collection au département de la musique.
C'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de chanter, c'était vraiment un acte vital pour elle. Et elle était vraiment dans un rapport de sincérité, de s'exposer vraiment avec ses fragilités. Je pense que le public a vraiment reconnu aussi ce don de personnes et en a été touché, en fait, tout simplement.
L'expo est ponctuée d'extraits de ses concerts dans lesquels cette générosité de l'artiste transparaît de bout en bout.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est fou.
Barbara, à la Bibliothèque nationale de France, exposition gratuite jusqu'au 5 avril, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, Dorine Bourneton avec nous. Vous connaissez peut-être la pionnière de l'aviation, première paraplégique pilote de voltige. Vous allez la découvrir sur scène, elle y raconte sa vie, comment elle a réussi à monter si haut. 01 45 24 7000 pour vos questions, pour être avec nous dans quelques minutes. 13h45, lui est paraskieur. Jules Segers prépare les Jeux Olympiques d'hiver, 5e et dernier épisode de notre feuilleton avec lui dans quelques minutes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez du ski free ride, en toute sécurité j'espère.
Oui, des courbes taillées dans la pente, de la neige onctueuse, des sauts au-dessus de barres rocheuses sous nos yeux, tout ça c'est le free ride en compétition. Ensemble on parlera de risque, d'audace et bien sûr de beauté.
Et avec vous Frédéric, une comédienne.
Anouk Grimbert, qui en plus d'être actrice, fait également de la peinture. On peut voir en ce moment une trentaine de ses œuvres à la galerie d'art GNG à Paris. Et avec elle, nous écouterons la chanson « Je veux du soleil » du groupe Au Petit Bonheur.
Merci à tous les deux. À tout à l'heure.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce samedi, Kerenan en concert.
Mathieu Conquet.
Kerenan joue pour la première fois sur scène les morceaux de son nouvel album « Paris Amour ».
Que la vie est belle, bien que surréelle, est-ce que tu t'en rappelles ? Que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles ?
Kerenan en concert.
C'est ce samedi sur France Inter à partir de 21h.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un ciel encore très agité pour cet après-midi.
Oui, parce qu'on a d'une part la perturbation qui est arrivée ce matin et qui s'éloigne vers l'est. On la retrouve entre l'Alsace et la Franche-Comté avec des averses sur la neige, sur les reliefs. Elle est même arrivée hier parce qu'on a une nouvelle perturbation, une nouvelle qui est arrivée par le quart nord-ouest et qui va avancer progressivement dans les terres. Elle arrosera toutes les régions entre la Normandie et le sud de l'Aquitaine en milieu d'après-midi. Elle gagnera l'Île-de-France en fin d'après-midi. Entre ces deux perturbations, on aura quand même quelques éclaircies et puis un ciel plus sec près de la Méditerranée. Avec beaucoup de vent, avec cette perturbation, des rafales qui pourraient dépasser les 110 km à l'heure sur le Finistère cet après-midi, selon Météo France.
Et donc encore un peu de soleil, quand même ?
Oui, quelques éclaircies, je vous le disais, qui vont essayer de se frayer un passage entre ces perturbations et les températures qui remontent. On repasse au-dessus des normales de saison de 3 à 4 degrés. 9 à 12, ça c'est pour la moitié nord. 11 à 16 pour la moitié sud, ça reste juste un petit peu plus frais sur le nord-est avec 5 à 8 degrés.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Dorine Bourneton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de Voltige. Voltige, c'est le spectacle que vous proposez en ce moment à Paris. Théâtre du Petit Montparnasse, un seul en scène, mis en scène par votre compagnon Éric Métayer, et dans lequel vous racontez votre vie, votre amour du vol, des airs qui vous donnent vos plus grandes joies, mais qui vous a aussi coûté l'usage de vos jambes suite à un accident d'avion. C'était en 1991. Vous aviez 16 ans. Cela ne vous empêche pas de voler aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs la première paraplégique au monde pilote de Voltige. C'est cet itinéraire que vous racontez sur scène du mercredi au dimanche. Ça vient de commencer. 01 45 24 7000, ça c'est le numéro de téléphone pour vous si vous voulez être avec nous dans la discussion. Vous passez aussi via l'application et le site de Radio France. C'est l'onglet Réagir et vous pouvez le faire de manière vocale ou écrite. Dorine Bourneton, dans quel état est-ce que vous êtes là depuis mercredi, le début des représentations ?
Alors, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu 20 ans d'un coup. Une énergie, je pense que c'est l'énergie du public, ce que me renvoie le public, les réactions pendant le jeu, les rires que je sens, les sourires, et aussi les réactions des personnes qui viennent me voir après la pièce. Et ça, ça me booste d'une façon incroyable, quoi.
Pas de fatigue, parce que c'est extrêmement physique. Vous êtes sur scène avec votre fauteuil. Alors, il y a deux danseurs qui jouent avec vous, Mickaël Faux, Johan Leduc.
Oui.
Mais vous n'êtes pas immobile,
alors,
loin de là.
Je danse avec eux, j'occupe l'espace, j'occupe la scène. Mais vous savez, quand on a connu la voltige, quand on est pilote de voltige et qu'on a été formé à cette discipline, remplir une scène, c'est une performance accessible.
Ça ne vous a pas paru quelque chose de surhumain à réaliser?
Ça a été beaucoup de travail, ouais. Beaucoup d'écoute, hein, d'attention, beaucoup de présence. C'est quand même 2 mois de répétition intensive tous les jours. J'ai pu gravir les échelons au fur et à mesure. Enfin, et arriver à ce résultat que vous avez pu découvrir vous-même hier soir.
Absolument. Vous êtes donc seul en scène, ou presque, avec votre fauteuil. Et vous avez quand même cette phrase étonnante au milieu du spectacle. Il y a une longue tirade et vous dites à un moment,
oui.
Le handicap n'est pas un spectacle.
J'adore cette phrase.
Oui.
Oui, mais je dis,
elle
ah non, mais ça finalement, c'est pas le bon exemple. Je me rattrape en me disant, ah non, ça c'est pas le bon exemple. Oui, mais en fait, j'avais envie avec ce spectacle d'offrir, de proposer une alternative à tous ces posts LinkedIn que l'on peut voir où voilà, des personnes prennent la parole, prennent des positions, parlent de leur quotidien, du handicap, de leurs difficultés. Le théâtre, c'est du spectacle vivant. Où chaque soir on va donner quelque chose, mais quelque chose de différent. C'est une vraie performance. Et en fait, j'avais envie de faire ressentir au public ce que peut vivre une personne handicapée au plus profond. Et pour ça, que la personne éprouve de l'empathie, qu'elle ressente des émotions. Et le théâtre, je crois que c'est, avec le cinéma, le meilleur moyen de faire, de partager une émotion, un ressenti, pour que les personnes puissent comprendre, prendre conscience véritablement de nos combats. Parce que je donne des exemples assez précis qui sont mis en scène, bien sûr, qui sont un petit peu romancés. Mais par exemple, il y a une scène devant l'ascenseur où, effectivement, parce que moi, je vais employer ce mot, même si c'est pas un mot que j'apprécie, mais je suis victime de pannes d'ascenseur récurrentes dans mon immeuble. Hein, je dis victime parce que, oui, quand on est handicapé, un ascenseur qui fonctionne pas, et ben on reste planté devant et on peut rester jusqu'à 3 semaines sans pouvoir sortir de chez soi. Mais pour faire comprendre
et
cette
chose-là,
et vous
dites au public, moi je vais pas prendre les marches, je vais pas prendre les escaliers pour descendre.
Voilà, parce qu'invalide, lui, peut dire, t'inquiète, je descends à pied, mais moi, à part rejouer la scène de la poussette dans le cuirassé Potemkin, je suis obligée d'attendre l'ascenseur. Ou la réparation de l'ascenseur. Voilà. Et ça, c'est des petits moments comme ça, flash, enfin, qui font prendre conscience. Alors, chacun, c'est marrant parce que chacun a son petit moment, les retours que j'en ai. Pour chacun, c'est différent. Mais moi, je me régale, quoi.
On sent que vous aimez être entouré, que vous aimez cette relation avec le public, que vous aimez communiquer. Que vous êtes quelqu'un d'extrêmement liant. Mais est-ce que vous n'avez pas subi la solitude sur le fauteuil? Est-ce que ça ne vous isole pas du reste de la société?
Oui, vivre en fauteuil, oui, on subit cette... C'est une solitude qui est subie, qui peut être douloureuse. Moi, j'ai su... Enfin, je pense avoir une vie intérieure de par mon parcours, de par mon enfance aussi, peut-être à la campagne ou
en Auvergne,
dans un village où on est un petit peu isolé, où on doit aller, chercher le moyen de s'occuper, de vivre des aventures, d'aller vers les autres, etc. Cette solitude-là, moi, je sais en faire quelque chose. Je sais y puiser de la force, de la réflexion, construire des projets dans cette solitude, parce que ça me permet de réfléchir, d'observer, d'écouter France Inter.
Mais il y a quand même des moments de votre vie où des gens se sont détournés de vous,
bien
vous avez
sûr.
Senti que il y avait ces derniers mètres à franchir et la personne ne les franchit pas, elle
oui,
ne vient pas.
Une main que j'essaye d'attraper et qui se retire et donc les moyens, j'explique, quand cette main se retire, quels sont les moyens, les autres moyens à notre disposition pour pouvoir aller chercher d'autres appuis, une autre épaule pour avancer. Mais oui, cette solitude, elle peut être très douloureuse. Et c'est un peu aussi la raison de ce spectacle, faire prendre conscience que n'ayons pas peur du handicap, n'ayons pas peur de l'autre, en fait, de ce que l'on ne se souhaite pas. Il y a une très belle phrase phrase dans la pièce où je dis oui, si moi j'étais valide, j'aurais la même réaction, hein, la même réaction que mon amoureux qui m'a quittée après l'accident, parce que la différence nous fait peur, ce que l'on ne se souhaite pas nous fait peur, etc. Mais gardons l'esprit ouvert, les bras ouverts, voilà, parce que on a tous à s'apporter les uns des autres.
Donc vous osez sur scène, Dorine Bourneton, et vous osez par exemple parler de sexualité, de la vie sexuelle d'une personne qui est paraplégique et de comment on peut être accueilli quand on a réservé une chambre d'hôtel, par exemple.
Ou ces lits simples d'office, voilà. Alors qu'on a réservé pour deux.
On réserve pour deux et on vous attribue un lit simple.
Oui, il y a deux lits simples.
C'est-à-dire que...
C'est une image, c'est pas systématique.
Non, mais ça vous est arrivé régulièrement. Des personnels d'hôtel n'imaginent pas qu'une personne paraplégique puisse faire l'amour avec quelqu'un d'autre.
Oui, ça a pu m'arriver. Non, c'est important de parler de la sexualité et on en parle à la fois avec beaucoup de poésie, beaucoup de pudeur, oui. Mais on dit les choses. Et c'est mon moment préféré de la pièce.
C'est vrai?
Oui.
Pourquoi?
Ah oui. Parce que c'est plein de poésie et c'est tellement ça que je remercie Eric Métayer d'avoir su mettre les mots là-dessus, d'avoir su trouver les formules pour en parler. Quand on dit que nous, on aimerait bien connaître l'orgasme, le vrai, mais on a celui de la tête. Et parfois, c'est un véritable feu d'artifice. Et dans l'éclat de chaque lumière, nous dansons. Parce que ce que l'on ne ressent pas, eh bien, on l'imagine. Et le pouvoir de l'imaginaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça aussi ce que raconte la pièce. On est beaucoup dans l'image. On suggère beaucoup de choses. On est dans la féerie, dans la... voilà, et du coup le public prend ce qu'il a à prendre et finit de construire sa propre image, sa propre compréhension du moment, du tableau qui est proposé. Et ben c'est un peu ça, quand on est handicapé et qu'on fait l'amour, on a voilà, une proposition et on construit notre tableau, on met les couleurs que l'on souhaite. C'est très joliment imagé.
Alors on se met dans vos pas, on se met à votre place en vous regardant sur scène. On comprend que quand on est assis dans un fauteuil, évidemment les autres vous regardent toujours de haut. Donc c'est une situation qui peut être difficile à vivre. Et peut-être on comprend pourquoi vous avez voulu aller aussi haut, revoler et devenir pilote. Ça, c'était un défi insensé quand vous vous êtes lancé dans cette aventure.
Oui, parce que voilà, on ne se voit pas comme on est. Et puis quand on vit avec un handicap, on a toujours tendance à se sentir inférieur puisque l'on vit assis et que l'on doit pousser sur les mains. Et en fait, j'avais envie, oui, de me sentir à la hauteur des autres. Et pour moi, pour être à la hauteur des autres, il fallait faire quelque chose d'extraordinaire. Je me sentais obligée. D'en faire plus. Et c'est ce que je dis à un moment donné. C'est pour ça que je dis le handicap, c'est pas du spectacle. Finalement, le droit d'exister n'est pas conditionné à un podium, à un record, à une médaille. Mais nous, quand on vit avec un handicap, on se sent obligé de faire mieux que les autres pour pouvoir être regardé, pour pouvoir sortir de cette invisibilité. Et moi, comme d'autres, comme des athlètes, comme les athlètes paralympiques, je me suis sentie obligée pour être écoutée, pour être regardée, à faire mieux et même à aller où aucun handicapé n'était allé jusqu'ici, où peu de valides vont devenir pilote de voltige.
Mais ça voulait dire changer la réglementation, ça veut dire changer la fabrication même d'un avion.
Ça a été tout un parcours, changer les... Oui, puis trouver
parce qu'il faut
école.
Enlever les commandes au pied. Moi, je ne suis pas pilote du tout, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais
on a des palonniers.
Voilà, ça, c'est voilà, les palonniers,
on a besoin des pieds.
Et
là,
bon.
Et
donc, comment vous faites,
malonnier. Il faut des commandes à la main. Et aussi trouver une école qui accepte de nous former, de nous accueillir, de nous former, de faire 2-3 aménagements pour pouvoir accéder aux toilettes. Voilà, ça a été tout un processus. Mais quand on arrive avec le sourire, avec gentillesse, avec bienveillance, avec des solutions plutôt que des problèmes, eh bien, on arrive à trouver à constituer une équipe autour de soi, voilà, qui vous accueille, qui vous permette de cheminer, de se sentir aussi à leur tour, parce que chacun puise aussi dans cette expérience quelque chose, de se sentir aussi utile à leur tour. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble, on s'élève ensemble.
Message de Ralph Eric qui nous écrit des Pyrénées. J'ai appris il y a quelques années le vol en avion. J'ai eu une fois l'occasion de monter en voltige et j'ai eu un sentiment exceptionnel d'être hors limite. Je suis très admiratif de ce que vous faites. Dorine Bourneton, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en voltige dans votre avion?
J'ai l'impression de danser dans le ciel. C'est vraiment le sentiment. Et puis aussi, on gagne en estime de soi parce que c'est quand même difficile, la voltige. On évolue en dehors de notre zone de confort. Et puis, on arrive à acquérir cette maîtrise au bout d'un certain temps, d'un long processus d'apprentissage, où il faut à chaque
fois... Mais tout le monde, au fond, valide comme personne en situation de handicap.
Oser y aller, ouais. Oui.
Tout le monde est à égalité.
Et du coup, on apprend énormément sur nous-mêmes et on est heureux, on se découvre face à soi-même et en fait, on acquiert de nouvelles compétences. Enfin, c'est tout ce processus-là que j'ai absolument savouré et que j'ai retrouvé aussi en devenant actrice, parce que à la base, pour moi qui suis quelqu'un de plutôt timide, me retrouver tous les soirs sur scène,
ça ne se voit pas du tout. Dorine Bourneton, vous étiez pionnière en devenant évidemment la première paraplégique à faire de la voltige aérienne. Il y en a d'autres qui vous suivent. Est-ce que les portes se sont ouvertes vraiment derrière vous?
Alors, il y en a relativement peu.
Ouais.
Pourquoi? Parce que je pense que les gens ne se sentent pas capables, ils pensent que c'est inaccessible, et peut-être aussi parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts, d'expérience, et cette expérience-là, il faut du temps pour l'acquérir. Ouais. Moi, je vole depuis l'âge de... J'ai eu mon brevet à l'âge de 20 ans, donc j'avais l'expérience, j'avais... ce parcours-là, je l'ai fait, je l'ai débuté très tôt. Mais j'ai découvert autre chose que la voltige, et encore, c'est encore mieux que la voltige. C'est le vol à voile, le vol en planeur.
Pas de moteur.
Pas de moteur, pas de bruit, avec le vent, le silence, avec les ascendances. Et ça, c'est encore plus merveilleux.
J'ai l'impression que vous voulez toujours découvrir des territoires nouveaux. C'est-à-dire que vous êtes pilote de voltige, mais vous dites, tiens, le planeur, je vais essayer
J'ai un tempérament d'exploratrice, oui. Et il y avait Dora l'exploratrice, vous avez aussi Dorine l'exploratrice. Mais je pense que ça vient de mon enfance, où, comme je vous disais, j'ai grandi à Noirétable, j'en parle beaucoup dans la pièce, oui. Un petit village en Auvergne, et j'allais explorer la nature, l'environnement avec mon petit vélo, et ça ne m'a jamais quitté. Et je me sens riche de cette curiosité d'esprit-là.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, il nous reste quelques secondes, Dorine Bourneton, à un jeune ou une jeune adolescente qui vous écouterait et qui serait en situation de handicap?
Reprendre ces mots de Marc Aurèle, rien n'est impossible à celui qui rêve, ose, travaille et ne renonce jamais.
Message peut-être aussi à ceux qui sont autour de lui ou autour d'elle. Ça dépend aussi d'eux. Seul, c'est compliqué.
Seul, c'est compliqué, mais si vous venez voir la pièce, vous verrez que j'ai parfois dû me débrouiller seule.
C'est vrai. Merci Dorine Bourneton d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14. Voltige sur scène à Paris, théâtre du Petit Montparnasse en ce moment.
Merci, merci au théâtre.
13h47 merci. Sur Inter. Une semaine dans leur vie. Et nous retrouvons pour la dernière fois notre jeune paraskieur. Lui est hémiplégique depuis sa naissance. C'est Jules Segers, membre de l'équipe de France. Il prépare les Jeux Paralympiques de Milan-Cortina, début le 6 mars. Et pour être performant, il doit s'entourer. Un kiné, un préparateur mental, il y a les déplacements, il y a le matériel. Bref, ça coûte cher. Et c'est ce qu'il nous explique dans ce cinquième et dernier épisode.
Dans le parasport, on est toujours en manque de sponsors. Malheureusement, on n'a pas la même visibilité qu'un athlète valide. Et heureusement que les soutiens qui sont avec moi actuellement sont là, parce que finalement, ça serait dur de payer la saison et de financer mon sport. C'est l'Agence nationale du sport qui a créé ce processus soutien ton sportif pour nous permettre de pouvoir financer nos saisons de ski pour nous athlètes d'hiver.
Vous souhaitez rejoindre l'aventure soutien ton sportif? Deux portes d'entrée existent. Soit je suis donateur, je souhaite faire un don. Soit je suis sportif, je souhaite déposer mon dossier. Je suis donateur. Sur la page d'accueil du site, cliquez sur « Faire un don ». Ensuite, sélectionnez le projet que vous souhaitez financer et inscrivez le montant du don.
Alors, rechercher des partenaires, ça peut être une source de stress parce que si on n'arrive pas à financer nos saisons, c'est forcément une source de stress. Il y a l'ANS, mais ça ne suffit pas. Heureusement qu'il y a les sponsors privés. On a besoin d'eux.
La notion de handicap n'était pas forcément un critère de base quand on a décidé de soutenir Jules. Notre idée, c'était de soutenir un athlète à part entière. Je suis Anthony Correa, donc coordinateur de direction chez Escoffier Recyclage. On est partenaire, nous, d'athlètes de ski alpin depuis plus de 20 ans. En tant qu'entreprise savoyarde, forcément, le ski a une place importante chez nous. Et voilà, et Jules, en tant qu'athlète, on l'a croisé hein, parce que c'est un voisin en tant qu'athlète des jets et sa personnalité nous a beaucoup plu et on a une aventure qui a commencé il y a un peu plus de 3 ans aujourd'hui maintenant et qui se poursuivra avec les Jeux au mois de février. On a en fait un contrat d'image avec Jules, donc on peut utiliser son image sous conditions fixées par ce contrat et en contrepartie, lui, il doit porter notre marque sur les compétitions sportives, donc hors Jeux paralympiques. Il a une partie fixe et une partie variable en fonction de ses résultats. Donc c'est une rémunération qui lui permet effectivement de pouvoir assumer les coûts de sa saison, qui sont quand même colossaux en termes de matériel, de déplacement et encore plus dans le parasport où les soutiens sont moins nombreux que chez les valides.
Alors en quoi ça m'a aidé? Forcément, ça m'a aidé à financer plein de choses. Notamment la préparation physique, la préparation mentale et forcément une partie des déplacements, une partie de toute cette vie d'athlète où on a tout plein de choses à acheter, un vélo pour la préparation estivale, etc.
On revient vite fait sur ton bilan que tu nous as fait et venir un peu sur le thème des Jeux.
Yes.
Pour parler un petit peu des Jeux et Émilie saura nous guider à ce moment-là.
Okay. Je pense pour un athlète paralympique, mais comme un athlète olympique, les Jeux, c'est vraiment le Graal. C'est la course dont tout le monde rêve, en fait. Finalement, c'est le plus haut niveau. Ça arrive rarement dans une carrière. Quand on a fait 2, 3 Jeux, c'est déjà beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose où il y a un environnement médiatique, il y a vraiment une effervescence. Un pays même derrière les athlètes de cette équipe de France olympique et paralympique. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut performer finalement. C'est la course qui fait rêver tout le monde.
Une semaine dans la vie de Jules Segers. Reportage Noureddine Zidane. Réalisation Vincent Godard.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h51, la France des cimes et des océans, avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, vous nous parlez du free ride en montagne. La Coupe du Monde a eu lieu lundi à Val-Thorens, et cette discipline pourrait même devenir olympique.
Le concept du free ride en compétition est simple. Une montagne très raide, entre 30 et 50 degrés d'inclinaison. Lundi, c'était donc la face nord de la pointe de Thorens. Un départ, une arrivée, et entre les deux, une liberté totale. Le skieur ou le snowboarder choisit sa ligne, c'est-à-dire là où il décide de descendre. Il n'est pas chronométré, mais jugé sur l'engagement, la fluidité, la vitesse, la technique. Des courbes somptueuses, des figures aériennes au-dessus de barres rocheuses. Plus la ligne est osée et originale, plus elle fera la différence.
Si je comprends bien, donc c'est du hors-piste, c'est dangereux?
Eh bien, la météo impose toujours ses contraintes. Alors d'abord, il faut attendre le feu vert de l'organisation. L'événement est d'ailleurs prévu sur plusieurs jours pour permettre des reports. L'organisation observe la neige, la température, sécurise la face, teste la résistance du manteau neigeux. Une fois le départ validé, tout se prépare à distance. Aucune descente de repérage n'est permise. En bas de la face, les compétiteurs inspectent, jumelles en main, la pente, ses couloirs, ses rochers. Ils imaginent une ligne et des enchaînements. Au sommet ce lundi, il était difficile de sonder les expressions. Les visages sont cachés derrière les larges masques, les corps camouflés sous des vêtements baggy. Pourtant, la peur les parcourt à chaque fois, du ventre aux pieds, circule dans les tendons, traverse ces corps qu'elle va ravir. Depuis l'arche de départ, les compétiteurs se sont jetés dans la pente, acclamés par leurs camarades, car comme toujours en montagne, c'est la solidarité qui prime.
Donc à l'origine, une pratique liée à l'aventure, à la liberté, qui est devenue une compétition.
En effet, Jérôme, le freeride, c'est avant tout une exploration, le plaisir presque mystique des pentes vierges. Et pourtant, la compétition a du sens, car elle crée toujours un cadre qui pousse les athlètes à aller là où ils ne sont jamais allés, à inventer quelque chose, à créer un geste, un engagement qu'ils ne savaient pas possible. Le sport de haut niveau cherche ce dépassement-là, faire du corps un lieu d'intensité, d'excès parfois, mais aussi de liberté. Les athlètes se sentent alors plus vibrants que jamais. Le freeride continue donc de grandir, les tout premiers championnats du monde auront lieu ce week-end en Andorre, et une entrée aux Jeux Olympiques est à l'étude pour 2030. Une discipline très télégénique, ouais. Car quand on les voit descendre, on ne peut que retenir son souffle.
Il faut trouver l'équilibre en fait entre audace et sécurité.
Exactement, d'ailleurs si un skieur se met lui-même en danger, il sera sanctionné. Les juges attendent de l'engagement, mais toujours du contrôle. C'est ce qu'incarne parfaitement Astrid Chélu, freerideuse de la Clusaz en Haute-Savoie. Elle prend des risques, elle fonce, et elle a marqué l'histoire en signant le premier double backflip féminin, c'est aussi dur à prononcer qu'à faire, donc un double saut périlleux arrière.
Oui, c'est ça, saut périlleux.
Et c'est ça l'audace, c'est oser aller au-delà de ce qui est attendu sans renoncer à l'exigence. Et j'aimerais pour conclure évoquer les bienfaits du risque en citant Simone Veil, car le sport ouvre toujours une pensée qui peut se distiller dans nos existences. La philosophe écrivait « Le risque est un besoin essentiel de l'âme. L'absence de risque suscite une espèce d'ennui qui paralyse autrement que la peur, mais presque autant. » Alors bravo à celles et ceux qui nous montrent la voie du bout de leur spatule.
La philosophe Simone Veil dans une chronique sur le freeride. Ça aussi, c'est de l'audace. Merci Virginie Troussier chaque vendredi dans C'est la France. C'est une chanson, Frédéric Pommier. C'est l'actrice Anouk Grimbert que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro.
Anouk Grimbert qui est également peintre. On peut voir en ce moment certaines de ses œuvres, surtout des pastels à la galerie JNG à Paris. J'y suis allé. J'ai trouvé ça très beau, aussi beau que la chanson dont elle a souhaité me parler, « Je veux du soleil » du groupe Au Petit Bonheur.
Je ne me souviens pas quand je l'ai écoutée la première fois, mais elle m'accompagne depuis des années. Parfois je danse, je la mets et je danse. Et quand je l'écoute, je me souviens de qui je suis vraiment, de qui on est vraiment, tous, à vouloir le soleil, à vouloir la lumière, à vouloir que la lumière gagne sur l'obscurité, sur la violence, sur toutes les formes de prédation, sur tout ce qui fait que ce monde devient irrespirable, dangereux. Et je veux du soleil, ça veut aussi dire je veux le bonheur. C'est commun à tous de vouloir être heureux, quoi.
Vous, aujourd'hui, le soleil, vous le trouvez où ?
Moi, je le trouve chaque fois que je contre-attaque la noirceur du monde, ou ma propre noirceur. Chaque fois que je contre-attaque la noirceur par ou de l'amour, ou des relations belles avec des gens beaux, quand je dessine, ou quand j'écris, ou quand je joue, en gros, quand on fabrique de la beauté.
Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite, dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires. J'ai de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. J'ai du soleil dans ma mémoire. J'ai du soleil. J'ai du soleil. J'ai du soleil. J'ai du soleil.
C'est en 1991 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Une chanson qu'Anouk Grimbert aimerait qu'on entende partout.
Je rêve que cette musique soit balancée dans toutes les rues du monde. Très fort, très fort. Et que cette musique éclate partout, dans les maisons, dans les parlements, dans les ministères, dans les chambres à coucher. Juste pour que les gens se souviennent de qui ils sont. C'est quoi leurs vraies aspirations ? Réveillez-vous les gars, quoi. Réveillez-vous. Et réveillons-nous ensemble. C'est incroyable et vraiment mystérieux comment les humains oublient ou négligent l'élémentaire. C'est vraiment étonnant, étonnant quoi. On sait plus chérir l'humanité. Et pourtant, on n'a que ça.
Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage.
Vous avez été beaucoup malheureuse dans votre vie, vous l'avez raconté, vous l'avez écrit. Est-ce qu'une fois qu'on arrive à survivre différentes épreuves de la vie, on est plus sensible encore aux rayons quand ils traversent les nuages ?
Quand on est passé par le feu, par l'obscurité profonde, et qu'on en sort parce qu'on met justement de la clarté sur toutes ces forces qui vous enfonçaient dans des formes de mort, de honte, de destruction de soi, on est beaucoup plus sensible aux rayons du soleil. On en est affamé, mais on est aussi beaucoup plus sensible aux menaces, quelles qu'elles soient politiques, qu'elles soient intérieures. On veut plus du malheur, on n'est plus capable d'endurer ça. Depuis que j'ai écrit le livre Respect, je suis sortie du malheur. Et je suis plus du tout candidate à le vivre.
Rien que du soleil, je suis restée qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite.
Cette chanson, elle vous remplit de soleil ?
En tout cas, elle me remplit de vie, elle me remplit d'envie. Parce que, en fait, c'est comme un cri vertueux, un cri de vie. C'est si heureux de combattre le malheur. C'est si merveilleux de mettre de la lumière là où il y avait de l'obscurité. C'est si heureux de trouver les mots pour combattre le silence qu'on vous impose. Tourner le dos à la violence, c'est une façon de rester humain.
Et de se respecter soi-même.
Absolument, ouais. Et c'est un soleil.
Du soleil au petit bonheur. C'était donc Frédéric Lechoix d'Anouk Grimbert.
Anouk Grimbert, dont vous pouvez voir le travail pictural à la galerie GNG à Paris. Quant à son livre Respect, sorti l'an dernier, il est publié chez Julliard.
Merci Frédéric, je vous dis à lundi, sous le soleil du 13-14 cette semaine. Cécilia Arbonas, Sonia Prince et Sébastien Sabiron à la rédaction en chef assistée de Sylvain Lesage et Nicolas Sabat, Camille Poux-Jalaguier, notre attachée de production, Florian de Rimini à la technique avec Élise Christophe qui va poursuivre sa route sous d'autres cieux. Bonne continuation et bonne route à toi, chère Élise. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme ?
Eh bien, je reçois une sorte de Robinson Crusoé dans un instant. Mathieu Juncker, biologiste marin qui a vécu 8 mois seul sur un atoll du Pacifique.
Très bien, dans la Terre au carré, 14 heures sur Inter.